Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde.
Bon, on va commencer comme d'habitude, on va remercier déjà tous les sponsors en fait, de Double Slash qu'on a mensuellement, qui nous donnent un petit peu d'argent. Donc merci à tous les sponsors, et puis si vous êtes intéressé pour sponsoriser les épisodes, c'est sur le site internet double/.dev et donc la rubrique nous soutenir, je crois, je sais même plus.
Exactement, et ça se fait sur GitHub Sponsor. Et si vous voulez qu'on passe aussi sur Google Souscription sur YouTube, en fait, vous pouvez aussi passer sur les souscriptions. Pour l'instant, on n'a pas ouvert la fonctionnalité. Si vous êtes plutôt familiarisé avec ça, dites-le nous dans les commentaires et on activera ce moyen. En tout cas, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. De quoi on va parler, Patrick, aujourd'hui pour ce nouvel épisode retour de l'actualité de l'été?
Ouais, on a pas mal de choses et encore on a écrémé un petit peu pour parce que sinon on pourrait faire un épisode de 3 heures, mais je crois que c'est, peut-être qu'il y en a qui seraient contents d'avoir un long épisode. Mais on va parler d'IA, évidemment, il faut toujours parler d'IA dans les épisodes, c'est obligatoire. On parle pas de Rust dans cet épisode, il manque un truc, je crois.
Exactement, on va pas parler de Rust.
Non. On va parler de certains outils qui ont une nouvelle version. On va parler de Directus qui a des nouveaux prix. Mais pour une fois, c'est pas l'augmentation. Tiens, bizarre.
Mais c'est bien, hein?
Spoiler alert, j'ai déjà balancé. De Node.js qui commence à comprendre TypeScript. Ça y est, il a appris le langage. Et après, des outils, plein d'outils pour gérer les tâches en background, un outil pour faire des sites en drag and drop, des outils d'accessibilité, tout ça. Voilà. Des petits outils.
Et de la formation aussi sur les events et pour mieux comprendre les composants. Nice. Allez, on attaque tout de suite dans le vif du sujet avec les Postgres. Postgres, et c'est un outil qui a été qui est sorti par Stackblitz, je crois, qui est
Supabase, non?
Ah ouais, ou peut-être Supabase, ouais.
Non, ça a été annoncé dans la semaine Supabase, Supabase Week, je crois. C'était la semaine dernière.
Et cet outil s'appelle Postgres.new, ce qui nous permet en fait de designer une base et un schéma de base de données avec l'IA. Et il va automatiquement créer notre diagramme, il va créer les migrations. On a juste à corriger et à valider. Et là, pour l'exercice de style, je fais « Ok, donne-moi un Twitter clone schema ». Il m'a automatiquement créé tout ça. Ça m'a pris à peu près 3 secondes. J'ai attendu et c'est venu automatiquement créer les migrations. C'est quand même assez puissant et assez sympa à utiliser. Ouais, c'est gratos pour l'instant. Je ne sais pas si ça va changer, si ça va bouger, mais c'est bluffant. C'est vraiment bluffant.
Ouais, c'est bluffant. Ah ouais, c'est la principe, c'est la chose en fait que tout le monde a relevé en fait la semaine dernière justement de la Supabase Week là. Cet outil qui marche à base d'IA et qui te génère n'importe quoi en fait avec les tables et tout. Alors, je trouve ça super intéressant pour apprendre aussi. Parce que voilà, pour des personnes qui ne sont pas, même pour moi, si j'ai une idée, je voudrais structurer une table, tiens, comment je pourrais faire, je ne sais pas trop, tu vois, l'outil pour tester, donner une idée, et puis éventuellement le modifier pour l'adapter un peu plus, mais c'est juste bluffant, c'est hyper rapide et ça te sort tout direct, quoi.
Ouais, mais c'est vrai que tu peux partir de postulat, en fait, au lieu de partir de ton schéma, on va dire, de scratch, de rien du tout. Là, pour le coup, en fait, tu peux t'appuyer là-dessus pour dire, OK, sur quoi je pars, quoi. Après, tu n'es pas obligé de faire un copier-coller exact, bête et méchant, on va dire. Mais tu peux largement t'inspirer pour... ça peut te prémâcher le travail de manière significative, quoi.
Ouais, parce que normalement, pour la plupart des gros projets, quand tu dois faire des tables, tu te creuses un petit peu la tête pendant une heure ou deux de comment tu vas structurer les tables. Et là, ça te donne vraiment une idée. Et après, pendant qu'on parlait, je réfléchissais à un truc. Je me disais, est-ce qu'on pourrait éventuellement récupérer le schéma des tables, l'utiliser dans une autre IA pour générer, par exemple, dans Laravel, tu sais, tu as un système qui génère les tables, en fait, de migration. est-ce qu'on pourrait pas utiliser notre IA pour générer les migrations et après avoir les migrations automatiquement? Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a un petit côté Inception IA.
Ouais, en fait, c'est. Mais je pense que ça serait largement possible de faire ça avec une chaîne, en fait. Tu vois, c'est. Tu utilises ce premier outil et après, basé sur ces migrations-là, génère-moi les lignes de commande de code en PHP ou depuis la CLI et exécute-les, quoi. Et au final, là, t'as quasiment tout automatisé, tout. Par contre, à tout automatiser, à quel moment, en fait, tu viens garder, en fait, ton libre arbitre pour dire, OK, ce champ-là, on va plutôt l'appeler comme ça, on va plutôt l'appeler comme ça, on va le nommer comme ça. Enfin, tu vois, d'avoir un point de contrôle à quelques moments, ça me paraît important. Néanmoins, ça peut énormément faire gagner du temps, mais de ma boule, quoi. Ça, c'est sûr et certain.
Ouais, et l'outil, je crois, ça fait les tables et ça, je crois que tu peux faire des requêtes aussi. Je pense qu'il est capable de générer des requêtes assez complexes si jamais tu veux.
Ah ouais.
Derrière, générer. Parce que les requêtes, des fois, parfois, c'est assez complexe à écrire. Ouais.
Et pour le coup, ouais, ça serait. Ouais, ça doit être sympa de pouvoir lui donner, en fait, le schéma. Tu lui donnes le schéma et tu dis, OK, moi, je veux taper ça, comme ça, mais sans ça. On va dire en français ou en anglais classique. Et lui, il te génère en fait la requête SQL optimisée ou au moins prête à 80%. Ouais, ça peut être super, super nice.
Ouais.
Postgres.new. On met les liens dans la description, évidemment. Ouais. Allez, on reste sur toujours de l'IA, où en fait, on en avait parlé dans un précédent épisode où on parlait de FormKit, qui est en fait un framework pour générer des formulaires. Et là, en fait, ils viennent augmenter en fait, la création de ce formulaire, toujours à base d'IA. L'idée, c'est tu viens donner un PDF ou une photo ou un scan d'un formulaire à l'ancienne. Et lui, en fait, il va interpréter chaque champ et il va te générer ton schéma directement avec le framework FormKit, évidemment. Mais de la même manière, tu scannes et tu as un formulaire direct, quoi.
C'est top.
c'est
entre le truc qui génère les tables et lui qui génère les formulaires, c'est juste fou. Là on a des super outils en fait, enfin des vrais outils sur base d'IA qui sont vraiment intéressants. Ouais, il te génère d'un document ou même tu peux lui taper un prompt pour dire. Moi j'avais testé sur un simple truc de login, tu vois, il m'avait généré le formulaire login FormKit. Et en plus FormKit, comme c'est un système de formulaire avec de component formulaire. Bah après, tu n'as rien à faire. En fait, il te donne directement les valeurs en sortie. Enfin, tu peux l'intégrer direct dans ton app en vue. Je crois que ça ne fait que du vue, par contre, FormKit, si je me trompe.
Non, je ne crois pas. Il me semble pas. Il me semble que c'est. Je ne suis pas sûr. Ah si, vue project. Okay,
ouais, c'est ça. C'est que du vue, FormKit.
C'est vue project. Exact. Donc, mais pour le coup, ouais, c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment bluffant. Pour tu gagnes vraiment du temps et à la limite,
vas-y, on peut tester. Tape un truc, un login ou quoi.
Login hôte, on va dire facile. C'est hallucinant. Et pour le coup, t'as tous tes composants et t'as ton schéma. Et tu as évidemment le rendu où tu peux tester tout ce que tu veux. Tu as tous tes messages d'erreur qui sont déjà codés et tout. Non, c'est vraiment, vraiment facile.
En plus, tu peux glisser-déposer après si tu veux rajouter des trucs.
Bien sûr, tu construis ton drag and drop avec. En fait, c'est vraiment la pierre manquante en fait, de ces formulaires-là. Et pour le coup, FormKit était top pour les développeurs parce que en fait ils avaient réussi à partir d'un schéma, on va dire code, tu venais générer tous tes formulaires, tes champs avec les messages d'erreur, les labels, tout ça, c'était plutôt propre. Par contre, la grosse frustration qu'il y avait, c'est que en fait le marketing pouvait pas s'en occuper, il fallait un développeur pour intégrer ça. Avec ce système de Kickstart là qu'on vient de présenter, en fait ça déplace la puissance en fait du formulaire dans les mains du marketing ou de la, du concepteur ou de la personne qui veut construire le formulaire. À l'issue de ça, il a son schéma qui est généré. Et donc, en fait, il peut donner ça au dev. Et le dev, en fait, vient intégrer directement ça dans... dans le code, quoi. Donc, en fait, il y a une sorte de mix. On n'est pas totalement sur un truc WordPress où tout est fait directement par le... Potentiellement, tout peut être fait par le marketing. Mais là, en fait, on est un peu à la croisée des mondes entre l'autonomisation, je ne sais pas si ça se dit, mais rendre autonome la création sans pour autant, en fait, dénigrer le code et l'expérience avec les couleurs, le branding et tout ça, quoi. Donc, c'est très, très puissant et ça me paraît vraiment pas mal.
Ah, c'est top. D'autant que les formulaires, c'est vraiment le truc le moins intéressant à faire en développement. Donc, si on peut éviter de les faire,
c'est cool. C'est clair.
Un peu la même chose tout le temps. Donc, bon.
C'est clair. La suite, Tori. Pour ceux qui connaissent pas, Tori, c'est un peu l'équivalent de. En fait, il s'inspire dans la même veine que Electron, c'est-à-dire utiliser de la technologie web, du CSS, du JavaScript et du HTML, CSS, JavaScript pour créer des applications desktop. Mais là, en fait, ça va encore plus loin parce que ils peuvent, tu peux interagir avec du Rust. Ils ont créé tout un écosystème. C'est devenu de plus en plus solide et ils ont annoncé début du mois la version 2. Mais il me semble que tu avais fait une...
J'avais fait un workshop il y a très longtemps, la première version. Je pourrais chercher dans les vidéos YouTube, mais on avait fait un workshop où je testais un petit peu, voir comment ça s'installait, tout ça, et comment on arrivait à communiquer sur une application desktop. Et c'était assez simple, en fait. Tu as une API, machin, et après, c'est pas mal. Et du coup, c'est en Rust, hein, tu vois, comme quoi on avait quand même un truc en Rust. Et la nouveauté principale de Tori 2, c'est quoi c'est...
Alors en fait, il y a deux, trois, il y a des breaking changes, il y a l'utilisation de toujours plein de plugins où en fait ils viennent découper en fait tout le corps des applications pour pouvoir en fait donner plus ou moins accès à des fonctions natives de ton opérateur en fait par exemple je vais pouvoir interagir avec la barre du menu, la barre de la fenêtre ou des choses comme ça. Et en fait ce qui est super intéressant, c'est que ils arrivent maintenant à déployer en fait sur iOS Android. Et là, en fait, tu te dis, là, c'est un nouvel acteur, quoi. Ils vont commencer à rentrer, en fait, vraiment en concurrence. Alors, est-ce que ça va surpasser le dev natif ? J'y crois pas trop, en tout cas pas pour l'instant. Mais ils sont en train de... Enfin, voilà, ils viennent croquer là-dessus. Donc, super intéressant. C'est en release candidate. Autant dire, c'est pas encore officiel et ça vient pas sortir tout de suite, mais ça s'annonce plutôt bien. Et en tout cas, c'est vraiment un projet ou une techno qu'on suit de manière assez régulière parce que on a vu toute la communauté se détourner d'Electron pour Tori et donc on pense que pour ceux qui font du web et qui doivent déployer un OS sur différentes plateformes, une application sur différents OS, ça peut être une très très bonne solution.
Ouais, de toute façon, après Electron, c'était basé sur Node.js, si je ne me trompe pas. Donc ça avait tendance. Alors je ne sais pas comment ils font parce que VS Code, il est basé sur Electron, je crois. À moins qu'ils aient changé depuis ou ils ont fait un truc adapté.
Je crois qu'ils ont bien réécrit beaucoup de choses.
Ouais, parce que VS Code, dans l'ensemble, il tourne quand même pas mal. Alors qu'Electron, justement, c'était le reproche, c'est que ça chauffait, enfin, ça faisait trop tourner le processeur, tout ça, machin. Tori, c'est du Rust, donc logiquement, ça tourne du feu de Dieu, quoi. Et puis, donc ça doit être beaucoup plus light à faire tourner. Par contre, le fait que ça tourne sur mobile, c'est pas mal. C'est... Ouais.
Ah, À tester, à voir. À voir.
Ouais, il faudra qu'on teste, c'est clair. Un nouveau workshop.
Exactement. À tester aussi Cherio qui passe en 1.0. Mais Cherio, c'est un truc, mais c'est super vieux en fait.
C'est vieux, ouais. Je sais pas depuis quand ça existe, Cherio, mais c'est, j'ai vu ça l'autre jour, version 1. Tu dis, ah ouais, ok, d'accord. Ça fait 10 ans que ça existe.
C'est ça. Et est-ce qu'on peut rappeler ce que ça fait, Cherio ?
Cherio, en fait, c'est un système qui permet de parser en fait, du HTML. Donc, tu lui donnes un document ou une string, n'importe quoi, sous forme de HTML. Et après, tu peux naviguer dedans et sélectionner des éléments à la manière de jQuery. Ah, j'ai dit... Désolé.
Mais
c'est vraiment exactement ça, parce que c'est des dollars, machin, dollars, je ne sais plus, parce que je ne fais plus de jQuery. Mais voilà, c'est vraiment l'écriture de jQuery. Et tu navigues à travers ton DOM et tu vas récupérer les éléments, tout ça.
Ok. Et pour le coup, c'est beaucoup, beaucoup utilisé pour scraper les données et donc ouais. Pour parser, pour récupérer les infos, quoi. Donc, toutes les personnes qui font du scrap de données à droite, à gauche connaissent Cherio. Et là, en fait, le fait que ça passe en version 1, ils viennent quand même casser et introduire des breaking changes dans la façon de parler. Par contre, enfin dans la communication avec l'API. Par contre, est-ce que il y a des gains ou des nouvelles fonctionnalités?
Non, je crois pas. En fait, tu vois, ils ont. Si tu regardes dans les breaking, c'est juste version de Node, des trucs comme ça. Il y a pas. Voilà, ils l'ont moderne. Tu vois, 18, 17. Après, ils ont changé 2-3 trucs. Mais ouais, en fait, ils ont enlevé certainement des polyfills, des trucs comme ça. J'en sais rien, mais voilà, ils ont certainement. Comment dire, moderniser un petit peu le code. Quoi.
Et peut-être plus de natif aussi. Donc,
Ouais, plus de natif. Après, ça tourne sur Node et tout. Donc... Non, c'est un bel outil. Mais enfin, la version 1.
Yes.
Ouais, comme quoi, ils ont mis le temps. Moi, là, c'est nickel. La version 1, elle est parfaite.
Nice. Toujours en termes de bel outil, alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai quand même mon petit faible pour Directus en termes de CMS Headless. Si vous n'avez pas écouté l'épisode CMS sur les CMS Headless, on vous invite à aller voir dans votre plateforme de podcast préférée et d'écouter l'épisode sur les CMS Headless où on vient justement expliquer tout le potentiel et tout le spectre de solutions qu'on a aujourd'hui pour utiliser ça. Et il y a un des acteurs qui s'appelle Directus, qui avait aujourd'hui une offre directement en cloud qui commençait à $99 par mois. Et donc, ce n'était pas pour toutes les bourses. Et aujourd'hui, ils sont venus avec une nouvelle offre qui est une offre starter.
Ouais, c'est je pense que on en parlait juste avant l'épisode en fait. À une époque, tu me disais ouais parce que moi il me semblait qu'il y avait une version free, mais tu me dis ça fait 2 ans qu'elle avait disparu. Donc ouais, je sais pas, c'est ça. Moi je trouve que ça faisait quand même assez élevé, $99.
Tu passes vraiment d'un pricing où t'es à zéro, enfin tu payes rien, ouais. T'as rien et tout de suite la première marche c'est $99. Et il y a un peu de l'espace au milieu, quoi. Et donc, je pense que la stratégie d'avoir quelque chose à 15 balles par mois en auto, pas en auto hébergé, mais en hosté, donc c'est-à-dire sur leur cloud à eux et géré par eux, c'est totalement pertinent. Après, tu peux toujours utiliser Directus sur ta propre machine et tu viens toi-même l'héberger si tu es en capacité de le faire sur ton VPS ou sur un Coolify, par exemple. tu peux l'héberger facilement. Ouais. Quoi. Après, à ce prix-là, tu as quand même des limitations, ce qui est normal.
Ouais,
hein.
C'est normal.
Tu as une personne qui doit gérer l'application et tu as 5000 entrées dans ta DB avec 50 000 appels API. Pour le coup, pour un side project, ça peut être largement suffisant ou pour un petit client qui sait de toute façon que ça va rester sur le scope ou en début de projet, juste pour éviter de payer 100 balles directement, ça peut être largement intéressant.
De toute façon, c'est clair pour les petits projets, si tu veux un site vitrine, des trucs comme ça, 100 balles, c'était beaucoup trop élevé, en fait, c'est clair. Donc, il fallait vraiment une offre beaucoup plus adaptée. Ouais. Pour un petit site, voilà, 15 balles, c'est bien, c'est le bon prix, je pense. Parce qu'après, si tu mets un serveur, toi, en auto-hébergé, tu arrives presque à ce prix-là. Donc, bon, est-ce que ça vaut le coup ? Là, tu gères rien, tu es tranquille.
Exactement. Et pour le coup, si ton client en fait est prêt à mettre ce prix-là, toi tu gères pas l'hébergement, tu lui mets sa carte bleue, c'est lui qui paye ça, il se démerde. Que si tu dois l'héberger, bah toi tu dois facturer son hébergement, tu dois gérer son hébergement. Tout de suite, le prix sera beaucoup plus élevé, quoi. Donc
En plus, il me semble, toi qui connais bien Directus, il me semble que la version cloud et la version community, il y a des différences, non ? Il y a des choses en plus,
oui,
quoi, sur la version
cloud. Oui, sur la version cloud, il y a pas tout. Sur la version self-hosted, t'as pas toutes les features. Par contre, je serais incapable de dire lesquelles ne sont pas. De tête, je suis pas capable. Mais oui, il y a deux trois différences. Ouais.
Et après, pour, tu vois, je regardais aussi Strapi parce que c'est un peu la concurrent. Enfin, je sais pas après s'ils sont vraiment directement concurrents. Directus, je sais pas qui est le plus gros entre Strapi et Directus, mais tu vois, Strapi, ils ont une offre à 29 dollars. Donc, c'est peut-être aussi pour ça aussi. Peut-être les concurrents ont déjà des offres dans ces tarifs-là. Donc, peut-être qu'ils ont été obligés à un moment donné de baisser les prix. Enfin, au moins, la première marche, elle est accessible.
Ouais, exactement. Mais je pense que tu vois, de 0 à 100 balles, le step est trop élevé, quoi. En termes de gamme de prix, ça se tient totalement. Totalement. Okay. Cool. Allez, on repart sur un truc un petit peu plus technico-technique. Est-ce qu'on ne serait pas en train de voir la fusion ? Est-ce qu'en fait, TS ne serait pas en train, TypeScript ne serait pas en train de venir. Le vrai standard est s'infiltré partout dans l'univers JS.
Alors ça serait, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ça, mais
je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Ouais, je suis complètement d'accord.
On le sait tous les deux, on fait un peu partie de la team. Bon, TypeScript c'est top, mais par contre des fois ça prend la tête. Surtout quand c'est des trucs simples. Tu vois.
Ouais, clairement. Clairement. Toujours est-il que derrière la dernière version qui est en 22.6, derrière un flag, néanmoins, il faut quand même initialiser ça. En fait, on va nativement, Node va pouvoir prendre en compte les fichiers types, TypeScript et c'est quoi exactement ?
En fait, il dégage les types annotation des fichiers .ts et après il lit le TypeScript directement en fait sans le transformer. Voilà.
Donc
il peut tourner tout seul, quoi.
Ouais, avec quelques limitations mais pour le coup au-delà de cette simple, on va dire simple news, tu vois, il y a quand même, moi ce que je remarque c'est quand même que en fait TypeScript a réussi à rentrer comme un standard de ma boule et même en fait sur Node qui était l'environnement, quoi. Donc je me pose la question, est-ce que tu vois les dénos, les buns et tout ça qui en fait ont été vachement plus pushy sur le TypeScript, est-ce que ils sont pas venus en fait bouger un peu les lignes de l'équipe de Node, c'est sûr.
Ah ben c'est obligé. Ah bah c'est sûr, Deno et surtout Bun qui lit le TypeScript directement sans rien faire. Ça donne un coup de pied dans la fourmilière, donc ils étaient obligés de se bouger, quoi, Node, parce que le fait que les concurrents sont capables de lire le TypeScript qui est devenu vraiment généralisé, ouais, comme tu dis, c'est devenu généralisé, t'as plus un projet aujourd'hui, en tout cas une librairie ou quoi que ce soit qui n'est pas écrit en TypeScript. Tout est écrit TypeScript, ça permet à tous ceux qui utilisent les librairies. Ah bon ?
Si on est en JS. Si on est dans l'écosystème JavaScript.
Ouais. Mais voilà, toutes les librairies sont écrites en TypeScript. La plupart des projets aujourd'hui, tu les vois, hein, sont écrits en TypeScript. C'est devenu le standard, ouais, clairement.
Ouais.
Donc, tous les nouveaux devs qui sortent des écoles, j'en ai vu pas mal, écrivent directement en TypeScript. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Ils ont appris quasiment que ça. Donc, ouais, c'est devenu le standard. Ouais. Après, ça reste du JavaScript. Hein, c'est juste que voilà, il faut typer, machin, bidule.
Ça se fait.
Ça se fait. Après, des fois, tu vois, je ne sais pas comment il s'appelle, Matt Polkop ou un truc comme ça, là, celui qui fait TypeScript Total. Là.
Ouais, Wizard.
Il te sort des trucs de l'espace, là. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Pour typer, pour typer un micro-truc, mais ultra basique, il te fait un typage monstrueux qui au final, perd en lecture. Mm. Mais quand tu arrives dessus... Tu vois, ouais, bah en fait, c'est une string. Ouais, mais en fait, c'est omit, machin, pic, machin. T'es là, c'est...
Ouais, ça devient n'importe quoi.
C'est devenu une usine à gaz. Et là, pour le coup, bah, tu perds en fait toute l'expérience un peu de... Si tu veux, en fait, c'est comme tout, quoi. C'est raison gardée. Je pense qu'on est obligé de basculer d'un côté dans le too much, revenir, rien du tout, c'est pas bien. Too much, tu perds beaucoup trop de choses. Ouais, trouvons un juste milieu, raison gardée, et c'est bien plus intéressant.
Ouais, c'est clair, TypeScript apporte beaucoup en tant que dev. Après, moi personnellement, devenir ingénieur TypeScript, ça ne m'intéresse pas, quoi. Donc, parce que là, c'est ce qu'ils font.
Non, merci, c'est bon, je passe mon tour. Bon.
J'ai autre chose à faire, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Allez, la suite, une autre solution qui nous permet en fait de gérer en fait des background jobs. Alors, on sait que souvent on doit effectuer des tâches, mais on n'a pas besoin de les faire de manière synchrone. On peut les faire de manière asynchrone où on va en fait générer une queue, c'est-à-dire un processus parallèle à notre exécution classique pour pouvoir en fait générer des tâches qui sont souvent lourdes. Je pense par exemple à processer une vidéo, par exemple, ça prend du temps, processer un fichier MP3, envoyer un email, potentiellement ça peut prendre aussi du temps si on doit collecter toutes les données ou des choses comme ça. De la même manière, si on doit le temporiser, on va dire ok, je dois exécuter ça mais que dans 2 minutes par exemple. Voilà, la solution on va dire classique, c'était de faire des queues. Et aujourd'hui, on a une solution qui s'appelle trigger.dev qui se veut en fait comme une solution open source pour exécuter des background jobs. Et c'est une plateforme qui nous permet de déployer en fait vraiment les tâches en background.
Ouais. Et puis donc open source, comme tu dis, il y a une version. Alors ça devient, j'ai l'impression que ça devient le standard. T'as une version cloud évidemment, ou une version self-hostée. Donc ça c'est cool de pouvoir la self-hostée toi-même, de pouvoir l'installer chez toi. Et il y a un dashboard avec les. Enfin, il y a des exemples tout ça de dashboard où ça t'as les tâches qui tournent, tout ça. Ça te dit ça a marché, ça a pas marché. Enfin, c'est vraiment bien fait. Et puis après t'écris toutes les tâches en code TSJS. Donc non, c'est un super outil.
Et pour le coup, sur le cloud, en fait, tu as $5 en fait, d'usage parce que c'est un fonctionnement en serverless. Donc, ça veut dire que tu vas en fait exécuter ton... Tu vas être facturé en fait à l'exécution de ta tâche. Plus ta tâche est chronophage, ou en tout cas énergivore en termes de capacité et de CPU, de RAM, tout ça, plus tu vas payer cher. Et donc, à la fin, en fait, tu vas payer. Sauf que tu as un crédit de $5 par mois. Donc, on va dire pour des tâches, on va dire classiques, basiques, ça peut largement suffire.
Ouais. C'est vrai qu'après, comme ils marquent, là, les prix sont assez transparents. Tu vois, tu as le prix à l'heure, tout ça. Ça reste finalement, c'est pas excessif les prix. Hein. Enfin, j'ai pas l'impression.
Non. Et pour le coup, moi, je trouve ça hyper, hyper clean et hyper transparent. Et leur pricing model est super clair, comme tu dis. Mm. Et en plus, tu peux tellement l'utiliser pour plein de choses. Tu vois, moi, je vois sur le projet, je dois gérer beaucoup de prix, de mise à jour de prix, en fait. En fait, je voudrais pas que le batch de mise à jour de prix, en fait, vienne ralentir mon expérience utilisateur qui est en train de naviguer sur l'application. Donc, faire ça en background, c'est totalement pertinent, quoi. Totalement pertinent.
Ouais.
Donc, ouais. Et pour le coup...
Oui, il y a marqué Next. Ça marche avec Next, apparemment.
En fait, ils ont... De toute façon, après, tu peux totalement... C'est totalement agnostique parce que, en fait, Le truc, c'est que tu viens créer un petit répertoire dans ton repo que tu appelles Trigger. Et tous les fichiers que tu as mis dans ce dossier-là vont être interprétés par trigger.dev. Et donc, depuis ton dashboard, en fait, tu viens connecter ton repo GitHub ou Git. Et il va aller analyser le folder qui s'appelle Trigger. Et il va interpréter tous ces fichiers-là. Il va les monter en mode endpoint. Et voilà. Donc,
Ok, ça, je n'avais pas compris. Donc, tu fais tout ton code dans ton projet Nox, par exemple. Et lui, après, tu le connectes et il va chercher automatiquement. Donc, tout ton code reste au même endroit, en fait. Ça, c'est pas mal, ça.
Oui, oui. Tu n'as pas besoin
De séparer le code.
Par contre, en fait, tu vas déployer. En fait, quand tu fais ton déploiement, tu sais, par exemple, si tu fais un Vercel deploy ou un Netlify deploy, et ben là, en fait, tu vas faire de la même chose. Tu vas faire un trigger deploy. Et en fait, ils ont une CLI qui est exactement la même chose. Et en fait, au lieu de monter tout ton applicatif, tu ne vas monter que ton serverless, enfin tes serverless functions. Et voilà. Et ça va être trigué automatiquement. Ça va le faire tout automatiquement. Non, franchement, c'est très, très puissant. Pour le coup, le quick start est vraiment bien, quoi. Tu vois, c'est hyper explicite où en fait tu viens tout créer c'est vraiment intéressant et c'est ultra facile à mettre en place quoi.
D'accord.
Donc super outil qui s'appelait pas Trigger avant, qui s'appelait autrement, je me rappelle plus, mais ils ont rebrandé le truc tout. Non, ça marche très bien.
Ouais, c'est un bon outil. C'est un bon outil, tu vois. Ils ont plein d'exemples à vidéo processing. Après, il y a les PDF aussi, tout ça. Enfin, toutes ces choses-là qui prennent un peu de temps à générer, ouais, c'est vraiment pas mal, en fait. Ouais, l'outil, elle a l'air vraiment sympa. On fera peut-être un petit workshop.
Un petit workshop. Ouais, ouais. Allez.
Mais chaud, un workshop.
On se rajoute des workshops à chaque fois.
On a que ça à faire.
Exactement. Allez, on déroule. La suite. Toujours dans ces super outils, on connaît tous Webflow. Tu as déjà bossé toi avec Webflow?
Non, je me suis juste amusé un petit peu avec, mais j'ai jamais vendu ça à un client, quoi. Non. Après, c'est pas mal, hein, pour faire un truc simple ou quoi, une monopage, enfin n'importe quoi. L'outil est vraiment très avancé. Hein.
Après, tu as beaucoup de designers qui facturent de la prestation et qui font des sites internet uniquement avec, avec Webflow. De la même manière, ils ont un service de gestion de CMS, donc pour gérer toutes les données. Et là, en fait, on vous présente WebStudio, qui se veut en fait l'équivalent open source de Webflow. Alors, pour le coup, je maîtrise pas Webflow et donc je ne peux pas comparer ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire.
Ouais,
néanmoins, on voit que c'est quand même assez poussé et je pense que le projet est assez mature pour venir concurrencer Webflow. Après, peut-être que l'expérience est telle et Webflow a tellement d'avance. Sauf que est-ce que le développeur, on va dire classique, va utiliser toute la puissance de Webflow? Ça se trouve, il utilise que 20% de Webflow et il pourrait faire exactement la même chose avec WebStudio, qui est son on va dire sa version open source, sans pour autant s'acquitter de le même prix du service, quoi.
WebStudio, c'est assez récent, hein. c'est assez jeune. Je me souviens du début quand le gars avait commencé à lancer le projet. Je crois que ça date même pas de 2 ans. Hein. C'est assez récent, donc je pense pas qu'il soit au niveau de Webflow parce que Webflow a une telle avance. Webflow, tu peux vraiment aller très très loin avec. Ne serait-ce, tu peux même créer des blocs et des components en React et les intégrer après dans ton truc. Donc tu vois, quelqu'un qui est très bon en développement peut faire des choses assez poussées avec Webflow. Après, voilà, il y a toujours la problématique de c'est pas open source, c'est propriétaire, il faut payer un abonnement, etc. Voilà. Et puis, ils peuvent augmenter à n'importe quel moment. Voilà, tu deviens un petit peu quand même prisonnier de ce truc. Mais voilà, c'est un débat. Bon, on va pas le faire. Mais ouais, Web Studio, c'est intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est comme l'outil qu'on parlait juste avant, c'est que tu as une version pareille, cloud hébergée, et une version que toi, tu peux héberger. Et là, ça, là, ça devient intéressant parce que, tu vois, ne serait-ce que l'exemple d'une boîte qui veut donner la possibilité à son marketing de générer des landing pages ou un truc comme ça, bah, peut-être que là, l'outil, il est capable de le faire. Et tu peux le mettre en interne et puis faire voilà, ton marketing, il est libre, il fait ce qu'il veut. Et puis voilà, quoi.
Ouais, il est surtout autonome, ouais, c'est clair.
Ouais, autonome et ça change d'un WordPress ou n'importe quoi. Je ne sais pas après comment ça fonctionne, la génération de pages, si c'est du statique ou quoi, je n'ai pas regardé en détail. Mais...
Deploy to Vercel, deploy to Netlify.
Donc ça ressemble, à mon avis, à une question, il y a sûrement un système de statique ou un truc comme ça. Donc ouais, ça change un peu de WordPress. Il faut voir comment ça fonctionne, les possibilités, mais ouais, c'est pas mal. Après, voilà, tout ce qui est ouais, pour du landing page, tout ça, ça pourrait être intéressant. Et ce que tu disais, ouais, tout ce qui est data, c'est, ils appellent ça des collections dans Webflow, je crois.
Ouais.
Donc tu as une sorte de. Voilà, tu vas faire des articles, après tu les affiches, c'est une collection, enfin c'est des data. Donc c'est un petit peu des langages un petit peu différents, mais voilà. Ça, c'est assez puissant, ouais. C'est du no-code, quoi.
Ouais, ouais, exactement. C'est du no-code, mais tu peux interagir aussi avec tes CMS classiques. Par exemple, tu vois, c'est pas leur CMS à eux, en fait. C'est une surcouche qui vient te plugger sur ce que tu veux. Donc, donc pour le coup, c'est plus agnostique de CMS, quoi. En fait, tu viens brancher ton CMS et leur outil, eux, te permet de créer l'interface entre ta page et
ouais.
et ton CMS headless, quoi. Donc
non, c'est pas mal. Après, c'est des outils, tu vois. Moi, ce que je pense, c'est que le WordPress, pour parler de WordPress, il y a beaucoup de gens qui utilisent des trucs comme des constructeurs de pages, là, je sais plus comment ça s'appelle,
Page Builder, Elementor,
ouais, Elementor, des choses Beaver. Comme ça, et très clairement. Enfin, à utiliser WordPress avec Elementor, qui est payant hein, quand tu veux vraiment utiliser Elementor, je me demande des fois si ça vaut pas plus le coup d'utiliser un truc comme Webflow ou un truc comme ça, quoi, plutôt que se casser la tête avec un WordPress Elementor. Bon, après, c'est mon avis, mais
le process, c'est plus valable de passer là-dessus. Le process,
ouais,
fait,
le process.
Ça fait 10, 20, 50 sites qu'on fait comme ça. Donc, changer le process. Demain, le dev n'est plus là. Qui gère, qui connaît le garant, qui est le garant du process. Là, c'est une nouvelle techno. On n'a pas l'habitude, on ne sait pas faire. Les habitudes.
Après, c'est aussi CTO des boîtes d'avoir un petit peu les...
Non, mais les CTO des boîtes qui... Moi, je pense que...
Ouais, ils sont CTO... souvent frileux, hein, les mecs. Hein. Ils sont souvent frileux dans les grosses boîtes.
Non, c'est, c'est le CTO de l'agence. C'est le CTO des agences.
Oui, alors les agences, c'est un autre problème. C'est que les mecs, ils n'ont jamais le temps de tester les outils et de faire évoluer leur process. Donc,
ouais, il faut que ça ship, il faut que ça ship.
Ouais, c'est voilà. Ils n'ont jamais le temps. Quoi.
Après, dans les boîtes, ça dépend de la maturité de la boîte. Mais tu vois, souvent, ils ont plus de temps... Ils peuvent mettre en place des choses comme ça et donc ouais, pourquoi pas, mais je pense que le cœur du problème sur s'ils viennent vraiment concurrencer Webflow, c'est typiquement le produit agence, quoi, mais vraiment. Allez, on enchaîne sur l'accessibilité. Alors toi, exactement, mais toi tu as été formé là-dessus, Patrick, non?
J'avais fait une formation d'accessibilité. Alors c'est le premier niveau. Hein. C'est pas, je suis pas un expert en accessibilité, mais j'ai voulu me former pour ne serait-ce qu'avoir les bases. Et oui, c'est très important. C'est souvent passé à la trappe sur le projet. Mais il faut savoir que c'est obligatoire sur certains sites, et notamment ceux du gouvernement. Le gouvernement est obligé en fait d'avoir des sites accessibles. Hein. Et quand on parle d'accessibilité, on parle pas seulement de personnes qui sont avec des gros handicaps, tout ça. On parle aussi de personnes qui ont des problèmes de vision, des problèmes avec daltonisme, tout ça. Enfin voilà, il y a plein de noms à différents stades de daltonien. Donc voilà, et ça c'est un outil en fait qui permet, alors c'est plus un outil pour les designers, qui permet en fait de tester des contrastes, tout ça en fait, et de voir si ça passe au niveau de l'accessibilité. Et donc t'as le petit color picker qui est sur le côté à gauche, qui te permet de changer les couleurs en fait des boutons. Donc tu changes la couleur et après en fonction du texte, tout ça, ça te dit si ça passe ou pas le test de contraste. Et puis là par exemple c'est tout en fail, là ça passe à moitié. Voilà, si c'est lisible ou pas, voilà. Donc, c'est plutôt intéressant. Là, on ne voit rien, par exemple.
ouais, bien sûr. Et en fait, tout est répertorié par, on va dire, par pathologie de si je suis daltonien, si je suis trop panopia, machin, tout
ouais,
ça.
Voilà, tous ces trucs.
En fait, c'est vraiment... en fait, ça va prendre en compte le potentiel, la perte potentielle de visibilité avec... avec la couleur que je vais suggérer.
Voilà. Ça, c'est hyper important. Donc, tu as un peu de tout. Hein. En bas, tu as le glaucome, donc cataracte, glaucome. Si tu as du soleil aussi, tu vois, parce que c'est con, mais par exemple, tu es sur un téléphone, tu as le soleil, tu n'arrives pas à lire. Donc, il y a un direct sunlight, ils ont mis... Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et souvent, il ne faut pas oublier parce que ça ne concerne pas... Enfin, on parle souvent d'accessibilité, mais souvent l'accessibilité, ça ne concerne pas uniquement les gens qui ont des problèmes vraiment d'handicap, tout ça. Ça concerne un peu tout le monde, en fait. Des fois, nous, on est fatigué. Tu as une vie, tu vois un petit peu moins bien, tout ça. Ou le soleil, ou des choses comme ça. Et ça, en fait, finalement, ça sert à tout le monde, en fait, la plupart du temps.
Ouais, ok. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi une erreur qui peut être induite aussi par les écrans sur la représentation des couleurs? Si l'écran est plus ou moins fidèle, ma question est sans doute naïve, je ne sais pas.
Ah oui, bien sûr, ça peut jouer. Ouais. C'est pour ça qu'il faut acheter un bon écran quand tu dev.
ouais, ça se tient, ouais, carrément. Et les écrans, ça coûte cher.
Ouais, c'est clair.
Les bons écrans, ça coûte cher. Ok, petit tools, ce qui s'appelle whocanuse.fr.com, je suppose, ouais, .com.
.com, ouais.
Ouais, .com. Yes. Allez, on passe sur un outil plus pédagogique qui, en fait, nous explique la propagation des événements dans le DOM. Alors, on sait que ça peut être vite compliqué. On sait aussi que le DOM, on a accès à plein d'événements. Donc, c'est à la fois super bien et à la fois parfois un peu complexe parce qu'il y a énormément d'événements qui se passent et quand on les passe d'un composant à un autre, du parent à l'enfant, au grand enfant, au second, tout ça, il se passe plein de choses. Et là, en fait, donc c'est un projet qui est soutenu ou développé par Alex Rirdon. Il m'excusera d'avoir écorché son nom. Par contre, c'est hyper didactique et en fait, on voit vraiment en fait la propagation de l'événement. Tout l'impact que ça peut avoir si on vient mettre un arrêt ou en tout cas un event listener qui est passif, qui vient de s'exécuter qu'une fois, si on peut stopper la propagation, est-ce qu'on met un prevent default ou pas. Et en fait, là, on visualise de manière très, très, très ludique en fait, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça déconne. Et en fait, je trouve ça super intéressant et c'est ultra didactique.
Ouais, c'est super pédagogique, en fait, pour le DOM Event qu'on est censé tous connaître. Hein, ça fait partie du DOM, du HTML, de JavaScript. Et souvent, ouais, on ne comprend pas trop stop propagation, des trucs comme ça, pourquoi il faut l'utiliser ou pourquoi, quand je clique sur mon bouton, j'ai un autre truc qui réagit, voilà. Ça permet de se rafraîchir un peu la mémoire ou d'apprendre hein, pour ceux qui n'ont pas appris ces choses-là. Et donc, c'est visuel, donc on comprend assez facilement comment ça fonctionne. Et puis voilà, c'est didactique. C'est pas mal.
Ouais, c'est très puissant et c'est assez simple. En fait, c'est vraiment rendre accessible quelque chose qui peut être assez complexe, en fait, visuellement et de manière hyper pédago. Le site s'appelle DOM Event, c'est ça ? C'est ça, c'est DOM Events avec un s.dev, évidemment le lien dans la description, mais belle petite découverte pédagogique, super intéressant.
Ouais, surtout aujourd'hui où on fait beaucoup de web app, JavaScript, tout ça, on met des clics dans tous les sens, des événements dans tous les sens, comprendre ne serait-ce que ce qui
comment
se passe au niveau de ton app, quoi.
Ouais, top. Allez, on reste sur le web avec les web components. Alors aujourd'hui, c'est devenu un standard qui est beaucoup plus accessible qu'il ne l'était il y a quelques années. Et là, c'est quoi ? C'est un tutoriel ? C'est une formation ? C'est quoi ?
C'est une course gratuite pour apprendre à faire des web components, toutes les bases, toutes les notions. Voilà, c'est un free roadmap qui, comme il le marque en haut, voilà, tu as tout le cheminement pour apprendre à faire des web components. Comme tu dis, ils sont bien pris en charge maintenant par tous les navigateurs. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas les Shadow DOM, tout ça. Donc, on était encore limité. Tu étais obligé d'avoir des librairies par-dessus pour que ça soit bien pris en charge. Aujourd'hui, normalement, tout fonctionne. Donc, on peut créer des web components qui sont natifs, je le rappelle, au navigateur. Donc, il n'y a pas besoin de React, de Vue ou n'importe quoi. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut créer des web components qu'on peut intégrer dans des projets React ou Vue ou Angular. Et ça fonctionne directement. Donc, c'est pas mal. Donc, ce ne serait-ce que pour apprendre les bases des web components. Et puis, ça, c'est toujours intéressant d'apprendre un peu plus parce que forcément, tu as les HTML templates, le Shadow DOM, tout ça, qui sont des choses natives. Donc, on apprend à les utiliser. Donc, c'est intéressant de passer par ça.
Et pour le coup, est-ce que en fait, on ne serait pas en train de recoder la roue de manière native, quoi ? Tu vois, est-ce que, en fait, quel est l'intérêt de passer par un web component vanilla, on va dire, plutôt que de le faire en React ou en Vue ou en Angular, Svelte, whatever ?
Bah parce que normalement, tu peux écrire ton component en VanillaJS et tu n'as pas besoin de le compiler. Normalement, il fonctionne direct, en fait, puisque c'est compris par le navigateur. Donc, tu peux faire des components, un web component, et après, tu peux réutiliser ton tag et tu l'intègres directement dans ton HTML. Style, tu vas faire un, je sais pas, un tag hello world, hello-world. Donc, ça sera ton web component et après, tu l'intègres directement dans l'HTML et le navigateur le comprend, il va chercher, il va créer le tag, en fait, il va le créer et tu auras un tag qui va fonctionner en web component. Donc, ça, okay. L'intérêt, c'est de ne plus passer par cette phase de compilation, tout ça. On est en natif, quoi.
Ok, donc tu viens, en fait, te supprimer ton JS, ton Vue, tout ça.
Voilà, tout ce tooling.
Ton React, ok.
Voilà, donc au fil des années, ouais, ça, il évolue, les web components, ça évolue au fil des années, bah... C'est de mieux en mieux. Après, ça reste quand même une écriture... c'est un peu différent, c'est plus complexe à écrire qu'un simple component React, c'est clair. Mais bah, après, même si tu ne l'utilises pas en projet, tout ça, c'est toujours quand même intéressant d'apprendre les notions, tout ça, de comment ça fonctionne, quoi. Ça peut toujours faire progresser, même sur ce que tu fais avec d'autres technos.
Comprendre, quoi.
Ouais.
Comprendre de quoi tu parles. Yes. Et allez, dernier petit outil qui est du pur CSS. Ouais. On connaît tous la tendance à supprimer le JS. Toutes ces formes, souvent on va utiliser des formes. Aujourd'hui, on est plutôt habitué à utiliser des SVG, le truc un peu standard. Et là, en fait, c'est un outil qui fait des clip paths, donc des formes, on va dire pas vectorielles, mais ouais, quasiment, mais des formes qui ne sont faites que en CSS.
Mmh. Ouais, c'est ça. Donc, nice. T'en as pas mal de formes, t'as plusieurs formes, en fait, et c'est du pur CSS. Alors, ce qui est intéressant, surtout, c'est de regarder le code généré en CSS.
Donc, ok.
Tu vois. Et là,
alors, on va prendre... On va prendre quelque chose d'assez complexe, on va dire, un polygone avec potentiellement, allez, on va dire 5. Alors, c'est assez... Ouais, ça, c'est... Je ne veux pas dire que c'est assez facile, mais...
t'as vu les calculs, quand même, ils sont assez balèzes.
Ouais. En fait, ça vient automatiquement, en fait, créer ton clip pass automatiquement et tu peux faire une rotation directement pour le mettre directement dans la forme que tu veux. Par contre, c'est des formes pleines ou des stripes ou on va dire que des borders et tu peux même mettre des images inversées. Et là, ouais. Pour le coup, ça commence vraiment à être un peu plus stylé. Tu peux mettre des borders autant que tu veux, tout. Non, c'est assez complexe. En tout cas, c'est...
Avec des vagues, je crois. Wavy circle, je sais pas quoi. Ouais, voilà, c'est ça aussi, si tu veux.
Ah oui, tu peux créer en fait des patterns de vagues avec la longueur de vague que tu veux, autant de repeat que tu veux. Et tu viens juste interpréter tes données et après ça vient faire le taf, quoi. Donc, intéressant. Ok. Après, ce qui est plutôt bien, c'est le full CSS, quoi.
Ouais, puis de voir le code généré, c'est juste, ne serait-ce que pour la notion d'apprendre un peu plus sur le code CSS généré, le clip pass, tout ça, comment il fonctionne, le polygone, machin. Non, c'est intéressant.
Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que gérer manuellement les masques radial, pixels, tout
ouais,
ça,
c'est un petit peu chaud quand même.
Ouais. si le mec qui arrive à écrire ça, c'est pas un autiste, mais presque, quoi. Donc oui, c'est sûr que si t'as pas un outil pour générer ça, c'est assez difficile.
Yes.
On en reste là, Patrick. Un grand merci
ouais,
à tout le
monde.
Ouais,
on va rester là. Ouais.
Un grand merci à tout le monde.
Merci à toi.
Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on vous dit à bientôt. Ciao.
Ciao.
Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.